France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain dans une France sous les eaux.
La cave elle est remplie, là ça remonte de marche en marche, il ne reste plus que deux marches. Donc comme j'ai un petit peu peur, j'ai demandé à avoir des parpaings et là on vient de tout mettre en hauteur, le frigo, le canapé. C'est juste que j'ai peur, j'ai jamais vu ça.
Nous sommes au pont de Sey, au sud d'Angers, département du Maine-et-Loire, en vigilance rouge. La Loire est sous nos yeux, elle déborde partout, même si ici on a l'habitude.
On l'a choisi, en fait, d'habiter là, on avait totalement conscience que c'était des maisons qui étaient inondables. C'est comme les gens qui habitent au bord de la mer, c'est un lieu voilà, sur lequel on est attaché. On aime la Loire, on l'aime parce qu'elle est capricieuse, parce que c'est beau.
Les fleuves nous attirent, en témoignent les curieux qui viennent ici contempler le spectacle. Mais il faut aussi s'en méfier, les digues qui nous protègent sont-elles adaptées au changement du climat? Ces épisodes de crues vont-ils se multiplier? Voilà les questions que nous allons poser ici à nos invités et avec nos reportages. Sans oublier toute l'actualité de ce jeudi avec vous. Bonjour Damien Mestre.
Bonjour Jérôme.
Et l'ex-prince Andrew arrêté ces dernières heures au Royaume-Uni.
Oui, c'est l'énième conséquence de l'affaire Jeffrey Epstein. On retrouvera notre correspondante à Londres, les Britanniques sidérés alors que le frère du roi Charles III est actuellement en garde à vue. Emmanuel Macron demande aux extrêmes de faire le ménage. Le président qui vient de s'exprimer sur la mort de Quentin Derange. Il n'y a pas de place, dit-il, pour les mouvements qui adoptent et légitiment la violence. On l'entendra. On détaillera également cette mesure annoncée par le gouvernement ce matin. Les agents de sûreté de la SNCF bientôt équipé de taser, mesure à titre expérimental. Et puis le début des épreuves de ski alpinisme au JO, une première et des Français tous qualifiés pour les demi-finales.
Et puis juste avant 14h ici, nous parlerons aussi de la beauté de ce fleuve, la Loire, avec l'auteur de bande dessinée Étienne Davodeau, qui l'a souvent mise en majesté et qui nous rejoindra. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Nous sommes donc au pont de Sey, un peu plus de 13 000 habitants au sud d'Angers, commune qui enjambe de nombreux fleuves et cours d'eau, d'où son nom ici, l'eau et partout les crues. On connaît, on en a aussi la mémoire. Quand on se penche avec prudence, bien sûr, sur le pont d'Umnac qui franchit la Loire, on voit les marques 1707, 1844, 1856 et elles sont beaucoup plus hautes que celles d'aujourd'hui. Mais depuis, on a beaucoup construit. Le fleuve déborde et il menace, c'est le cas à l'endroit où nous sommes ici, tout près de la Loire, avec Jean-Paul Pavillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire des ponts de Sey. Ce sont les égouts qui débordent juste à côté de nous, et ce qu'on entend là.
Exactement, ce sont les égouts qui sont juste à côté de nous qui débordent. Au regard de la montée des eaux, l'ensemble des réseaux sont surchargés et donc les plaques d'égouts se soulèvent et donc les eaux usées s'en vont effectivement dans la nature.
C'est une situation qui est quasiment généralisée dans la commune ?
Alors, essentiellement ici, l'endroit où il y a le plus de charges, parce que l'autre moitié de la commune qui est protégée par les digues n'est pas du tout aussi imprégnée que celle-ci là.
Les digues, c'est une problématique importante et leur entretien, on va en parler jusqu'à 14h. On va avancer ensemble dans cette ruelle vers la Loire. Vous avez été contraint, Jean-Paul Pavillon, de fermer un pont ces dernières heures.
Oui, on a été contraint de fermer un pont. C'est un pont qui est géré par le conseil départemental. Mais au regard des niveaux d'eau, le niveau d'eau est arrivé au niveau ce qu'on appelle du tablier. Donc les arches ne jouent plus leur rôle. Et donc il y a de la pression sur ce pont-là. Et pour ne pas ramener d'autres charges, on a préféré arrêter la circulation de façon à ce que les gens ne passent plus au regard de la pression qu'il y a sur ce pont.
Donc le maire participe à la prise de décision sur on ferme un pont ou pas. Le maire peut aussi aider une habitante à sortir une voiture de son garage, ça arrive aussi.
Ça peut arriver, c'est ce qui m'est arrivé effectivement il y a 3 heures, lorsqu'on faisait un petit peu le tour au niveau de la mairie. Une dame avait garé sa voiture hier soir et comme l'eau a beaucoup monté, a fallu aller chercher la voiture, la démarrer, la sortir de l'eau, voilà. Donc ça fait partie aussi du quotidien des élus, mais aussi des services.
La Loire qui traverse votre commune, elle est juste devant nous, là, à 2 mètres, et on est protégé d'elle, sinon on aurait vraiment de l'eau jusqu'au genou, par un bâtard d'eau très long, plusieurs dizaines de mètres, que vous avez installé.
Exactement. Alors là, ça fait partie effectivement du plan communal de sauvegarde. On met en place des ouvrages pour faire en sorte que l'eau ne rentre pas soit dans les maisons, soit on polderise une partie de la ville. Et donc là, le bâtard d'eau qui est juste devant nos yeux permet de retenir la Loire de façon à ce qu'elle ne déborde pas et n'aille pas notamment jusqu'à l'EHPAD qui est un petit peu plus loin. Et donc ça permet de retenir l'eau jusqu'à un certain niveau et aujourd'hui c'est tout à fait efficace.
Là il y a les pompiers qui viennent de passer avec leur Zodiac, ils peuvent aussi patrouiller pour voir s'il n'y a pas des gens en difficulté, il y a cette vigilance là. Vigilance, vous parliez de l'EHPAD, c'est un point d'inquiétude aujourd'hui pour vous?
Le point d'inquiétude il est lié à toutes les personnes fragiles, parce que donc, c'est ça, donc l'EHPAD est un point d'inquiétude mais qui est géré avec l'ARS, donc là il y a aucun
l'Agence régionale de santé.
Exactement, là il n'y a pas de souci, ils sont allés voir. Par contre nous on a regardé effectivement tous ceux qui sont entourés d'eau et donc on a un service d'aide à domicile, nous avons aussi du portage de repas, donc toutes les personnes vulnérables sont contactées et sont déjà évacuées.
Un EHPAD a été évacué à Angers à quelques kilomètres d'ici ces dernières heures, est en cours d'évacuation. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Notre reporter ici depuis plusieurs jours, vous allez nous accompagner jusqu'à 14h. Vous étiez ce matin à l'hôtel de ville d'Angers, dernier point de situation, les eaux continuent de monter. Alors ça concerne la Loire ici et puis il y a aussi la Maine à quelques kilomètres.
Oui exactement, la Loire dont le niveau après un court plateau remonte très lentement et dont le pic devrait maintenant a priori être atteint. Et puis la Maine qui continue de gonfler, 6,28 m attendu demain soir désormais et là pas de pic en vue. Et ce ne sont pas que des chiffres parce que cela veut dire aussi de plus en plus de ponts fermés, de routes coupées, des autorités qui demandent de privilégier le télétravail, limiter au maximum les déplacements non indispensables et puis plus de 150 foyers qui ont été évacués préventivement depuis samedi. Comme l'eau monte lentement, évidemment, personne ne cède vraiment à la panique, mais on se rapproche quand même de niveaux de crue exceptionnels. Beaucoup de monde ici parle de celle de 95 notamment.
Oui, c'est celle dont on nous parle depuis plusieurs jours ici, 94-95. Merci Faustine Calmel. Jean-Paul Pavillon, on va vous retrouver dans quelques minutes avec la ministre de l'Aménagement du Territoire également, Françoise Gatel, qui est là aussi aujourd'hui. Et on ouvrira ce débat de l'aménagement, hein, évidemment, des rives, des berges, des activités humaines autour de ces fleuves. On parlera de ce qui se passe aussi dans les autres départements français, évidemment avec vous Damien Mestre. Mais avant cela, l'actualité, l'information principale, c'est donc ces derniers développements dans l'affaire Epstein et cette image historique ces dernières heures au Royaume-Uni, Damien.
Oui, le prince déchu Andrew, embarqué ce matin par la police, arrêté chez lui, le frère du roi Charles III, visé par une enquête pour ses liens avec le milliardaire Jeffrey Epstein. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Une correspondante à Londres de France Inter. Des images, Gaëlle, qui ont, on le disait, sidéré ce matin les Britanniques.
Oh oui, en une de la presse britannique, vous avez ces photos de la police venue l'interpeller tôt ce matin dans sa résidence de Sandringham avec ce convoi de Range Rover noir banalisé, le fils préféré de la reine en garde à vue. C'est du jamais vu et les Anglais n'en reviennent pas.
Une arrestation, Gaëlle, dans le cadre de la relation entre le prince déchu et le pédocriminel Jeffrey Epstein.
Oui, ça fait 10 jours que les enquêteurs mènent des investigations sur sa conduite en tant qu'émissaire du Royaume-Uni pour le commerce international. En 2010, de nombreux emails montrent qu'Andrew a fourni à son ami Epstein des rapports confidentiels sur des visites officielles en Chine, à Singapour et au Vietnam et des opportunités d'investissement potentiel, notamment en Afghanistan. Alors Andrew a toujours nié ces malversations, mais personne n'est au-dessus des lois, a réagi ce matin le Premier ministre Keir Starmer, alors que 9 forces de police britannique se penche sur le rôle potentiel joué par Andrew dans plusieurs affaires de trafic d'êtres humains et d'agressions sexuelles sur mineurs. Le droit doit suivre son cours, vient de réagir à l'instant le frère d'Andrew, le roi Charles III.
Merci Gaëlle Joly, correspondante de France Inter au Royaume-Uni. Lui avait déclaré la loi martiale à la surprise générale en Corée du Sud fin 2024. L'ancien président Yoon Suk-yeol finalement condamné à la prison à vie. Une loi martiale que le président sud-coréen avait décrétée pour tenter de museler l'opposition au sein du Parlement sud-coréen. Après l'agression et la mort du militant identitaire Quentin Derenck à Lyon, la crainte désormais d'une surenchère de la violence et les appels au calme qui se multiplient, à commencer par celui d'Emmanuel Macron. Le président de la République s'est exprimé il y a quelques instants en marge de son déplacement en Inde au sommet sur l'intelligence artificielle. On vous retrouve, Julien Nenny, vous êtes à New Delhi. Emmanuel Macron qui renvoie ce midi dos à dos extrême droite et extrême gauche.
Oui, la réaction du président était très attendue parce que le chef de l'État s'était contenté jusque-là d'un simple tweet publié samedi dernier. Cette fois-ci, juste avant de s'envoler pour Paris, il a clairement haussé le ton contre la France insoumise, mais aussi contre le RN.
Les partis extrêmes doivent faire leur ménage, l'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente. Rien ne serait justifié, ni chez les uns, ni chez les autres, et ni même dans un face-à-face qui est mortifère pour la République. Rien ne saurait justifier l'action violente. Rien.
Les partis extrêmes doivent faire leur ménage. Emmanuel Macron reprend là mot pour mot la formule de Sébastien Lecornu mardi à l'Assemblée. Et comme son Premier ministre, le président cible ensuite en particulier Jean-Luc Mélenchon, mais sans le nommer.
À chaque fois qu'il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont mis en place des milices pour faire de l'autoprotection, qu'il y a telle ou telle chose parce qu'il y aurait de l'autre côté un discours de violence et qu'il la légitime, ils ne commettent pas simplement une faute politique, ils commettent une faute morale et ils créent les conditions de ce qui arrive.
Il faut rester calme, ajoute enfin le chef de l'État, que son entourage décrivait ce matin, je cite, préoccupé, tant cette affaire Quentin de Ranc fracture la classe politique à 6500 km d'ici.
Les explications de Julien Nenni en Inde pour France Inter avec Raymond Albouy. Emmanuel Macron qui demande par ailleurs à Giorgia Meloni d'arrêter de commenter ce qui se passe chez les autres. La première ministre italienne qui avait qualifié la mort de Quentin de Ranc de blessure pour toute l'Europe. On le disait, appel au calme du président, la famille de Quentin de Ranc appelle également à la retenue, prise de parole par l'intermédiaire de leur avocat qui est revenu ce matin sur le profil du militant sur RTL. L'avocat maintient sa version. Quentin de Ranc a selon lui été victime d'un guet-apens, Emmanuel Leclerc.
Oui, maître Fabien Rajon, mandaté pour protéger l'intégrité morale de la victime face, dit-il aux commentaires, aux vidéos d'apologie de ce crime qui déferle sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. Il prépare des dépôts de plainte. Fabien Rajon réaffirme que Quentin de Ranc n'avait jamais participé à des rassemblements en vue de commettre des violences, pas un gros bras de l'extrême droite, sans commenter comment ce jeune homme s'est retrouvé avec des militants armés de gazeuses, de gants coquets, pour sécuriser la manifestation du collectif Némésis. Maître Rajon affirme en revanche avoir recueilli des éléments montrant que Quentin de Ranc était bien tombé dans un guet-apens, une expédition punitive préparée, repérée par des spotters, des hommes en scooter qui tournaient dans le quartier. L'avocat s'est félicité de la requalification de l'enquête pour homicide volontaire, estimant que l'on est clairement dans une histoire de meurtre en bande organisée. Fabien Rajon, en revanche, déclarait sur RTL que la famille de la victime ne participerait pas samedi à la marche organisée à Lyon en hommage à Quentin de Ranc, une famille qui dénonce toute forme d'appel à la violence, toute forme de violence politique.
Vous évoquiez cette marche, Emmanuel Leclerc, merci. Le maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, demande justement l'interdiction de cette marche prévue dans sa ville samedi. L'élu évoque la présence à venir de militants d'extrême droite violents venus de toute la France ainsi que d'autres pays européens. Plus de 30 000 foyers toujours privés d'électricité dans le sud-ouest de la France, région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, conséquence des inondations qui touchent en plus du Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne qui sont en vigilance rouge. Épisode de crue loin d'être terminé, prévient ce midi le ministre de la Transition écologique. Des difficultés de circulation aussi à noter toujours aujourd'hui sur l'A9, notamment entre Orange et Perpignan, ainsi que sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne. Ce sont eux qui sont chargés de la sécurité dans les gares, les 3000 agents du service de surveillance de la SNCF. Certains d'entre eux seront désormais équipés de tasers, ces pistolets à impulsion électrique censés paralyser sans tuer. Même chose pour les agents de sûreté de la RATP dans le métro parisien. C'est le ministre des Transports qui a annoncé ce matin cette mesure à titre expérimental, Luc Chemelin.
Ah oui, pour commencer, 10% des effectifs de la police ferroviaire en seront équipés dans les semaines à venir. Ça représente environ 300 à 400 agents qui seront d'ailleurs spécialement formés à l'utilisation du taser. Côté gouvernement, on insiste, ce sont des vrais professionnels de la sécurité et qui portent déjà aujourd'hui une arme létale. Et justement, l'idée est d'adapter leurs interventions dans des zones souvent denses en population, comme par exemple un métro ou le quai d'une gare, et de réduire aussi le risque de blessures, voire de tirs mortels, notamment quand un individu est menaçant. Cette annonce était très attendue par les syndicats comme l'UNSA Ferroviaire. Nicolas Calonne, son responsable sûreté.
C'est un moyen de force intermédiaire supplémentaire qui permet justement de gérer les situations au mieux pour éviter d'avoir justement des dommages collatéraux, d'éviter de créer de la panique avec par exemple un tir en gare, parce que comme c'est arrivé déjà, on a bien vu comment les personnes ont réagi, tout le monde a peur, etc.
Le taser a prouvé son efficacité selon le ministère, comme au Royaume-Uni en novembre dernier, lorsque les forces de sécurité s'en sont servies pour maîtriser un homme qui venait de blesser 11 personnes avec un couteau dans un train. Alors si on regarde les données du gouvernement, l'an dernier ont été recensées en France France, 104 700 victimes de vols, violences, escroqueries ou encore fraudes dans les transports en commun. Un niveau certes au plus bas depuis 10 ans, mais un chiffre encore trop élevé, regrette-t-on dans l'entourage du ministre.
Les explications de Luc Chemla. Les suites du procès du rappeur Naps, accusé d'avoir violé une femme dans son sommeil en octobre 2021. De très nombreux éléments prouvent que le rapport sexuel n'était pas consenti, dit ce matin l'avocate générale qui requiert 7 ans de prison contre Naps, de son vrai nom Nabil Boukobza. L'actualité judiciaire, c'est aussi le procès en appel dans l'assassinat de Samuel Paty qui se poursuit aujourd'hui. C'est le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui qui est interrogé depuis ce matin, accusé d'avoir été l'un de ceux qui avait mis une cible dans le dos de l'enseignant via des posts sur les réseaux sociaux. Un militant, Sarah Guibaudeau, qui se dit toujours victime d'une injustice, mais qui cette fois-ci a eu un mot pour la famille de Samuel Paty.
C'est sincèrement que je présente mes excuses, comment dirais-je, mes condoléances se rattrapent Sefrioui qui ne reconnaît aucune responsabilité. La famille de M. Paty me voit comme un criminel alors que je n'ai rien à voir avec ce crime. Quand il vient aider le père de l'élève menteuse, c'est pas une campagne de haine, juste un militant qui utilise la mobilisation citoyenne sans laquelle l'administration n'agit pas souvent. La vidéo dans laquelle il traite l'enseignant de voyou, elle joue un rôle d'apaisement hostile. On demande une sanction administrative. Souvent dans l'hyperbole, il dénonce l'État et les médias qui l'ont présenté comme l'homme le plus dangereux d'Europe, réfute les témoignages qui rapportent ses coups de force et d'intimidation répétés contre la laïcité notamment. Lui se présente comme un humanitaire qui venait au secours des familles de Gaza et aurait même pacifié le quartier d'isolement de la prison de Beauvais. Il rappelle que malgré la surveillance des renseignements, il n'avait, avant l'assassinat de Samuel Paty, jamais été condamné. Ce monstre est en France depuis 40 ans, lance-t-il. L'impuissance des services de l'État interroge. Là-dessus, au moins, les parties civiles pourraient tomber d'accord.
Compte rendu signé Sarah Guibaudeau. C'est une étude scientifique de l'Institut Pasteur qui permet de mieux comprendre le développement du cancer du sein chez les femmes, en particulier chez les femmes qui viennent tout juste d'accoucher, une période postpartum qui pour certaines augmente par 3 le risque de développer un cancer. La faute au développement de certaines cellules, nous apprend cette étude Nina Richard.
Sur son ordinateur relié à des microscopes, Lamia Djaoul, doctorante à l'Institut Pasteur, étudie les tissus des mamelles de souris.
Donc c'est un premier step dans l'identification et la caractérisation de la glande mammaire.
Surtout pour comprendre le fonctionnement des cellules après l'allaitement, parce que
les cancers dérivent de certains types de cellules.
Notamment celles qu'on appelle les cellules sénescentes. Elles se développent juste après la grossesse ou la fin de l'allaitement. On les appelle aussi les cellules fantômes. Ce sont elles qui réveillent les cellules cancéreuses. Aurélie Chiche, auteure de l'étude et chercheuse à l'Institut Pasteur.
Les cellules pré-tumorales présentes vont prendre avantage et vont, si vous voulez, bénéficier des molécules et des facteurs de croissance qui sont produites par ces cellules fantômes, entre guillemets, pour booster leur croissance.
Ces cancers postpartum touchent surtout les femmes au-delà de leurs 35 ans et elles sont de plus en plus nombreuses à être concernées.
Avec le style de vie des femmes aujourd'hui qui font de plus en plus d'études, de plus en plus de carrières, la plupart des femmes maintenant ont des enfants un peu plus tard par rapport à il y a 50 ans et donc potentiellement ce risque de développer des cancers du sein postpartum est amené à augmenter malheureusement.
Et ces femmes touchées par un cancer du sein après leur grossesse présentent un risque de métastase plus élevé et une survie plus réduite par rapport à celle diagnostiquée en dehors d'une grossesse.
Un reportage de Nina Richard et étude qui ouvre donc la voie à une meilleure prévention alors que les cancers postpartum concernent entre 5000 et 6000 femmes chaque année. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec donc cette nouvelle épreuve qui fait son entrée aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire des JO, le ski alpinisme. Je vous rappelle les règles, les skieurs doivent d'abord monter le plus vite possible une colline à 70 mètres de dénivelé avant de redescendre en mode ski alpin. 3 minutes à peine pour effectuer tout cela. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Épreuve qui sourit pour l'instant aux Français, les 4 engagés ce matin sont en demi-finale.
Un très grand sourire côté de l'équipe de France. Le parcours des Bleus est parfait. Chez les dames d'abord, Émilie Harop et Margot Ravinel sont désormais qualifiées pour la finale qui partira à 13h55. Émilie Harop, la numéro 1 mondiale, qui a fini ses deux tours précédents, quart et demi en tête, avec à chaque fois le meilleur temps, 3 minutes et 3 secondes pour grimper 75 mètres de dénivelé dans un labyrinthe avec des losanges, un grand escalier et descendre en slalom. Ensuite, le cœur grimpe à 180 80 battements par minute. C'est explosif et spectaculaire, le ski alpinisme aux Jeux Olympiques. Deux Françaises donc pour amener les premières médailles de l'histoire du ski alpinisme aux Jeux. Chez les hommes, Thibaut Anselmé et Pablo Giner d'Almasso se préparent dans la raquette d'arrivée à participer aux demi-finales, chacun dans un groupe différent. 13h25 pour Anselmé, 13h35 pour Giner d'Almasso. Ils devront terminer leur course dans les deux premiers pour directement accéder à la finale ou bien décrocher les deux meilleurs temps des troisièmes places. La concurrence est surtout espagnole, catalane même, pyrénéenne. Une compétition qui se déroule dans une énorme tempête de neige depuis ce matin. 20 cm au moins sont tombés et ça continue, ce qui rend la seconde partie de la piste en mode ski alpin compliqué. Les chutes vont avoir lieu, c'est sûr, même si les militaires italiens et les bénévoles ont fait un énorme travail en 20 minutes. Grosse chance de médaille aujourd'hui à Bormio.
Eh bien, on suivra ça, tout ça avec vous. Merci Guillaume Batin avec les moyens techniques de Romain Luquiens. Les bons chiffres du tourisme en France, les très bons chiffres même l'an dernier, 102 millions de visiteurs en 2025, c'est plus qu'en 2024, année des Jeux Olympiques, et chiffre d'affaires record pour le secteur, plus de 77 milliards d'euros. La France qui reste la première destination touristique au monde. Et puis, un mot pour vous annoncer la disparition de José Van Damme, chanteur d'opéra belge, l'un des plus grands baritons basse de sa génération. José Van Damme est mort à l'âge de 85 ans. Allez, on vous retrouve, Jérôme Cadet, les pieds dans l'eau au pont de C.
Absolument, on s'est un peu éloigné de la Loire et on a retrouvé le lieu qui va nous accueillir. C'est une galerie d'art, on va vous en dire plus. Et on a une vue plongeante sur le fleuve, notre émission spéciale. La France sous les eaux jusqu'à 14h. On se retrouve dans un instant.
France Inter présente
le podcast L'exemplarité, anatomie d'une vertu politique.
Thomas Negaroff.
Une affaire Epstein qui met en lumière les dérives morales de personnalités politiques. En France, une candidate à la présidentielle menacée d'inéligibilité et un ancien président multicondamné. La question de l'exemplarité de ceux qui nous gouvernent est au cœur de l'actualité et de l'histoire.
En 6 dates clés.
6 grandes dates, 6 épisodes, avec le professeur de droit Éric Buge.
L'exemplarité, anatomie d'une vertu politique.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Business Affaires.
Le groupe EDF accompagne l'électrification du transport routier, comme l'explique Jérôme Clichy, responsable activité poids lourd chez le concessionnaire Gorias.
EDF facilite le financement de nos camions électriques grâce au certificat d'économie d'énergie, une aide souvent décisive. Le groupe EDF met aussi en œuvre un écosystème électrique complet, l'infrastructure de bornes, la fourniture d'électricité et une recharge économique au bon moment.
Plus d'infos sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
La météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Le temps de ces prochaines heures. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Jérôme.
Pas d'amélioration cet après-midi, un temps encore instable. On est encore sous la dépression Pedro, ouais, c'est ça ?
C'est pas terminé, on a encore un régime d'averses sur une bonne partie du pays cet après-midi. Des averses qui vont se multiplier, en particulier entre les frontières de l'Est, le centre-Val de Loire, le massif central, jusqu'aux Pyrénées. Et encore une fois, ces averses pourront être localement fortes. On peut avoir des cumuls assez importants, notamment dans la partie sud-ouest, avec en plus une activité orageuse. Le vent souffle encore très fort le long de la façade atlantique entre le sud Finistère et les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à 100 km/h. Le vent qui va se renforcer cet après-midi près de la Méditerranée, en particulier la Tramontane dans son domaine, on pourra dépasser les 120 km/h. Et puis les conditions météo sont vraiment très mauvaises en montagne, avec de fortes chutes de neige, un risque d'avalanche très élevé, en particulier sur les Alpes. La situation est vraiment préoccupante, notamment sur la Haute-Savoie, avec un risque à son maximum de 5 sur 5.
Est-ce qu'on peut espérer, Patricia, une amélioration pour demain ?
Oui, enfin, la dépression va se décaler vers l'Italie. Elle va laisser quand même beaucoup d'humidité, donc ce sera encore très nuageux demain. Quelques pluies résiduelles, mais très faibles, près des frontières de l'Est et dans le Sud-Ouest. Pas de pluie pour demain sur les départements qui sont placés en vigilance orange crue depuis plusieurs jours maintenant. Pas de pluie demain sur le département notamment de la Maine-et-Loire. Pas de pluie donc chez vous. Et cette amélioration va se confirmer dans les prochains jours. Le flux aussi va enfin être stoppé. On aura beaucoup de nuages sur la moitié nord, mais du soleil dans le sud.
Merci Patricia Charbonnier. 13h24 sur Inter.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
1-13-14 sur le terrain. Dans cette France sous les eaux, celle d'une large moitié ouest pour faire court. 35 jours de pluie consécutifs depuis début janvier. C'est un record et cela a des conséquences pour des millions de Français qui vivent au bord des fleuves. C'est le cas ici au sud d'Angers, commune des Ponts de Cé, traversée par 6 ponts dont certains sont fermés. Ici, on a l'habitude de vivre avec l'eau, parfois sur des îles formées par ces cours d'eau. Il y en a une en face de nous. Jean-Paul Pavillon, merci d'être avec nous pour ce 13-14. Vous êtes le maire des Ponts de Cé. Quelle est cette île qui est juste en face de nous, là, au milieu
c'est
de la Loire ?
L'île aux chevaux, et c'est la commune de Sainte-James-sur-Loire.
Donc c'est une autre commune ?
C'est une autre commune, juste en face de chez nous, exactement.
De l'autre côté du fleuve. Nous sommes au deuxième étage de ce bâtiment qui domine le fleuve, qui est aujourd'hui consacré à l'art. C'est une ancienne fabrique d'hameçons, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, c'est une ancienne fabrique d'hameçons, jusque dans les années 2000. Donc voilà, et donc on y fabriquait des hameçons, beaucoup...
Toujours en lien avec le fleuve, avec la pêche.
Exactement, donc beaucoup d'ouvrières étaient là à fabriquer des hameçons, et donc après ça a été déplacé sur l'est de la France et après sur la Chine.
Et donc aujourd'hui, des œuvres d'art, le public vient, mais c'est fermé jusqu'à dimanche, je crois.
Exactement, nous avons fermé parce que vous avez pu le constater, c'est inondé juste devant et donc on ne peut plus y accéder sans mettre les pieds dans l'eau.
Ce département du Maine-et-Loire en vigilance rouge qui explique votre présence sur place aujourd'hui. Bonjour Françoise Gatel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Vous avez pu vous rendre à Angers ce matin où là encore de nombreuses rues sont inondées, tout comme ici dans cette commune des Ponts de Cé. Le Premier ministre a annoncé ce matin avoir lancé les procédures de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ça veut dire quoi pour les communes comme cette commune des Ponts de Cé ?
Alors pour les communes et les habitants, c'est une information importante puisque la reconnaissance de catastrophe naturelle déclenche des indemnisations par les assurances qui sont particulièrement importantes. Et donc le Premier ministre a décidé d'accélérer en quelque sorte les choses puisqu'il annonce la première réunion interministérielle pour les premières reconnaissances dès la semaine prochaine.
Ça veut dire que les communes peuvent d'ores et déjà déposer leur demande ?
Absolument. Les communes qui sont prêtes sont invitées à déposer leur demande par Internet de façon à ce que ça aille très très vite et que les remboursements soient déclenchés, soit par les assurances, mais aussi par des fonds de l'État qui sont à la fois ce qu'on appelle la DSEC, c'est des dotations pour catastrophes climatiques. L'enveloppe a été doublée cette année sur le budget 2026 et on accélérera les reversements pour permettre d'alléger les trésoreries des communes. Et de la même manière, mais ici, monsieur le maire le sait, on l'a vu, que le fonds Barnier, qui est cette année de 300 millions d'euros, qui permet de financer des équipements comme les bâtards d'eau qu'on a vus, puisse vraiment être déclenché là où c'est nécessaire pour faciliter l'action des communes.
Ces bâtards d'eau, ce sont ces boudins gonflables là, qu'on a vus à quelques dizaines de mètres ici tout à l'heure et qui empêchent la Loire de déborder, notamment vers l'EHPAD qui est situé juste derrière ce bâtiment. C'est un épisode singulier par sa durée, par le nombre de départements aussi français qui sont touchés. Il y a 4 départements en vigilance rouge, mais il y a des millions de Français qui vivent au rythme des crues ces derniers jours, du jamais vu ici depuis 30 ans. Quelle leçon vous tirez déjà, Françoise Gatel, de ce à quoi on est confronté ?
Alors, je suis venue ici, d'ailleurs avec mon collègue ministre des Transports, pour d'abord exprimer notre soutien aux élus, mais aussi à tous les habitants qui sont touchés et à l'ensemble de ceux qui sont engagés. Je pense aux pompiers, je pense aux gens des routes, je pense à toutes les équipes des préfectures. Et ce que je constate, un, c'est que cette situation de crise climatique est gérée ici d'une manière qui m'a impressionnée parce que les différents services sont très bien articulés et on voit qu'on arrive à anticiper des choses, à prévoir des nécessités d'évacuation ou pas. Et je me suis engagée à revenir quand les temps seront un peu plus apaisés pour mesurer, évaluer la manière dont la crise a été gérée. Je constate aussi ici, on l'a vu, vous avez parlé des bâtards d'eau qui sont ces boudins qui empêchent l'eau, mais surtout qu'il y a un plan communal de sauvegarde ici comme dans d'autres communes qui n'est pas dans la théorie, ça a été préparé et monsieur le maire nous expliquait qu'il y a régulièrement des exercices pour faire que le jour où la crise est là, chacun est prêt et serve l'intérêt des habitants et les protège.
Jean-Paul Pavillon, vous êtes le maire des Ponts de Cé. Vous avez la ministre en face de vous. On parlera dans un instant des digues, mais il y aura sans doute des travaux à faire le long de la Loire dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les digues, désormais, c'est la responsabilité des intercommunalités. Vous aurez besoin de l'État pour ces travaux ?
Oui, on a besoin de l'État. L'État répond déjà présent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, lorsqu'on a eu les EPCI ont repris cette gestion donc en 2024 pour les digues domaniales, mais en 2018 pour les autres digues. Maintenant, c'est pareil, c'est un peu comme les crues. C'est dans le temps, il va falloir que ça dure. Parce qu'on a juste un objectif de 2035, mais il faut savoir que les fonds qui sont arrivés jusqu'en 2035, bien, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est assez long de faire des travaux. Et lorsqu'on voit un épisode comme celui-là, ça aussi anticipe éventuellement d'autres choses, notamment des choses qui ne sont pas classées comme digues. Et l'événement qui se passe sur la RD 132, qui n'est pas une digue, il y aura sûrement du travail à faire.
Pour comment... ce qui se passe de l'autre côté du
fleuve. C'est ce qui se passe de l'autre côté. Ouais. Et comment on accompagne effectivement les collectivités, parce que c'est une route départementale.
C'est une route départementale, ce qu'on appelle une levée.
Une levée.
Et il y a un risque, elle est en train de s'effondrer.
Elle n'est pas sous la même responsabilité, mais on a besoin d'éléments comme ça, justement, pour évacuer la population. Donc là, on aura besoin de l'État pour accompagner, bien plus large que ce qu'on fait aujourd'hui.
Merci Françoise Gatel d'avoir été avec nous ici aujourd'hui. Je vous laisse repartir, parce que je crois que vous avez une réunion importante à Paris, à Matignon.
Merci
ministre
beaucoup.
De l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. On va quitter les rives de la Loire, parce qu'on en a parlé, il y a aussi la Maine qui est en aval ici et qui est surveillée. Le pic de crue ne sera pas atteint avant ce week-end pour la Maine, mais c'est un record depuis 30 ans. Alors pour permettre aux habitants qui ont les pieds dans l'eau, il y a une vingtaine de rues qui sont concernées, Faustine Calmel, la mairie d'Angers installe des parpaings et des passerelles.
Oui, au bout de la rue des Carmes, les agents municipaux s'activent. Trois parpaings, deux longues planches de bois et voilà des sortes de trottoirs sur pilotis. Bruno Audis est responsable de l'installation de cette opération pour la mairie d'Angers.
Donc là, actuellement, en fait, on installe des passerelles en prévision de la montée des eaux pour assurer le cheminement des gens, pour qu'ils puissent continuer à rentrer chez eux. Quand l'eau va monter dans les rues, qu'ils puissent rentrer chez eux sans difficulté, en fait. Après, on fournit aussi beaucoup de parpaings aux habitants sur leurs demandes pour qu'ils puissent remonter, en fait, tous leurs meubles dans leur maison en prévision pour éviter que les meubles soient dans les pieds dans l'eau.
Car l'eau arrive désormais directement de la Maine et remplit progressivement la chaussée. Sur le pas de sa porte, Claire surveille le niveau qui monte.
Je suis sur un parpaing. Devant, il y a d'autres parpaings avec des grands tréteaux. Mais devant, il y a aussi les égouts. Là-bas, elles n'absorbent plus du tout l'eau. Et je crois que toutes les caves de la rue sont remplies d'eau. Donc, on ne sait pas si ça va sortir par où, comment, si ça va monter plus que ça ou pas.
Elle voit les caves déjà chez elle complètement inondées.
Il reste deux marches avant que ça arrive à la hauteur vraiment du couloir. Et le couloir, il est à la même hauteur que chez moi. Donc, par précaution, mon père il m'a emmené une pompe. Mais elle n'a pas l'air de fonctionner tant que ça, parce que ça ne coule plus. Et j'ai des messieurs sympas qui sont venus déposer les parpaings. Du coup, je leur ai payé un petit café, parce que les pauvres, ils sont trempés.
Oui, car la pluie continue aussi de tomber. La mairie d'Angers s'attend à ce que de nouveaux quartiers soient inondés dans les heures qui viennent. Plus de 2000 de ces parpaings et 2 km de planches ont été commandés en tout.
Merci Faustine Calmel pour ce reportage à Angers. Jean-Paul Pavillon, c'est la même chose ici, au Pont de Cé, le même dispositif ?
C'est le même dispositif. On a anticipé, nous, depuis un certain moment, parce que la Loire est montée avant la Maine. Mais effectivement, comme l'évoquait tout à l'heure Madame la Ministre, c'est les plans communaux de sauvegarde qui, lorsque la Loire monte, et nous, dès le niveau 1m60, on commence à mettre des choses en place. Et là, vous voyez, au niveau 5m30, et tous les 10 à 20 cm, on a des actions à faire. Et celles-là font partie des actions indispensables pour protéger les habitations et les habitants.
J'accueille deux nouveaux invités ici sur cette terrasse qui domine la Loire au Pont de Cé. Cyril Fleurant, bonjour.
Bonjour.
Professeur des universités en géographie physique et de l'environnement, vous êtes également membre du GIEC, ici en Pays de la Loire, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Vous nous expliquerez ce qui, dans ce phénomène, est dû peut-être au réchauffement climatique ou pas. Et puis, un régional de l'État, Étienne Davodeau, bonjour.
Bonjour.
Auteur de bande dessinée que l'on suit année après année et dont on a apprécié en 2023, c'est ça, votre album Loire, dans lequel la Loire était mise en majesté, avec peut-être une autre lumière que celle-ci. Le spectacle que vous avez sous les yeux, Étienne Davodeau, qu'est-ce qui vous inspire, vous qui habitez à quelques kilomètres d'ici, je crois ?
Et on ne peut pas s'empêcher de trouver ça assez spectaculaire. Ouais. Il y a une puissance terrible dans le fleuve qui est en train de couler devant nous, qui est très différent. C'est une ambiance qui est très différente de celle de l'été. Et moi, en tant que dessinateur, ouais, évidemment, j'adore cette amplitude d'ambiance, de couleurs et d'émotions que la Loire nous procure. Et c'est ce que j'ai tenté de raconter dans mon livre. Et c'est vrai que j'ai longtemps vécu au bord du fleuve ici, et je la repente avec plaisir sans arrêt. Même si je n'oublie pas que les périodes de crue sont des périodes de difficultés. Monsieur le maire nous en parlait. Il est sur le pont depuis plusieurs jours. Il y a des drames qui se passent. Il y a beaucoup de choses compliquées, mais ça montre que la Loire et nous, on est strictement interdépendants.
Ouais, voilà. Tout près d'ici, il y a deux jours, trois personnes qui naviguaient de nuit sont tombées à l'eau et une de ces personnes est toujours portée disparue. Donc c'est un peu ce mélange de fascination, d'attraction, mais en même temps de danger. On va en reparler ensemble, Étienne Davodeau, dans une minute. D'abord, je voudrais vous emmener un petit peu plus en aval, une trentaine de kilomètres en aval, parce que le niveau de ce fleuve, la Loire, est suivi en temps réel par Vigicru. C'est le service d'information sur les risques de crue en France. Et ce matin, je me suis rendu à la station de mesure qui est à une trentaine de kilomètres. J'y ai retrouvé Stéphane Marlette, chef de division hydrométrie et crue de la DREAC Pays de la Loire. C'est le service Vigicru de Nantes.
Alors on se trouve à Montjean-sur-Loire et en face de nous on a la station hydrométrique un peu historique de la Loire hein, puisqu'il y avait des relevés de hauteur d'eau ici depuis le 18e siècle et c'est une station qui est jaugée, jaugée ça veut dire qu'on mesure le débit à cet endroit-là depuis 100 ans. Et elle est emblématique parce que c'est le dernier point de débit de la Loire. À l'aval, en fait, on a l'influence de la marée, donc on ne peut plus produire de débit plus loin dans la Loire.
Un peu moins de 5,70 m, c'est ça ?
C'est ça, 5,67 m. Vous pouvez consulter les hauteurs en temps réel sur Vigicru. Hein, et puis, c'est une station sur laquelle on fait de la prévision à deux jours. Donc ça permet aussi d'anticiper la gestion de crise, hein, puisqu'on est en vigilance rouge sur ce tronçon aujourd'hui. Alors, on est sur une crue exceptionnelle pour le secteur, hein, puisque c'est un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 1995. En termes de débit, il faut savoir que, à part 1982, c'est un débit qui n'a pas été jaugé sur la Loire. Donc, c'est vraiment des débits exceptionnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour l'hydrométrie, pour nous, en fait, puisque, en termes de connaissance du fleuve, c'est vraiment majeur pour nous d'avoir cette mesure.
Et je vous donnerai le résultat de cette mesure historique dans quelques minutes et en exclusivité. C'est une leçon de géographie en temps réel, Cyril Fleurant, pour vous, ce qui se passe en ce moment.
C'est sûr que le caractère exceptionnel fait que c'est une vraie leçon pour toutes et tous, c'est vrai.
En face de nous, on l'a dit, monsieur le maire, Jean-Paul Pavillon, il y a cette autre commune et cette levée. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours sur cette route qui longe la Loire ?
Alors sur la RD 132, donc c'était samedi dernier, donc la Loire était encore pas assez haute, et donc un riverain nous a alerté sur un effondrement le long de la route. Donc au regard de la montée des eaux, la question c'est de se dire est-ce que justement la route ne pouvait pas être emportée par la crue. Et donc ça a été ça la première alerte. Et donc mesure de précaution, nous avons fermé tout simplement cette route-là de façon à faire en sorte que les gens puissent évacuer à pied, mais surtout pas avec les automobiles qui pourraient justement donner un effort supplémentaire et voir la route éventuellement partir sous le poids des voitures.
Alors le préfet a demandé aux 800 habitants d'évacuer. Pour l'instant, ils ne sont pas d'accord. Ils ont décidé de rester chez eux, de faire les allers-retours à pied ou à vélo, plusieurs kilomètres. Faustine Calmel, vous avez croisé hier tout près d'ici Denis et Patrice, ils venaient faire des courses et voir des amis au Pont-de-Cé. On va les écouter dans un instant. Denis et Patrice.
Alors, j'habite 43 Levée Ligérienne, en direction de Saint-Jean-de-la-Croix. On connaît le coin, on est né là, donc faut pas s'affoler.
Est-ce que ça fait partie des zones que le préfet a dit qu'il fallait évacuer ou pas ?
Oui, c'est ce qu'ils nous ont envoyé comme message, mais bon, ils vont un peu vite en besogne. Moi, j'habite à 150 mètres à vol d'oiseau de la Loire, donc tout est plein d'eau, quoi. C'est entouré d'eau.
C'est comment chez vous, là ?
Bah, j'ai de l'eau dans mon terrain derrière, sur la pelouse.
Mais pas la maison ?
Mais pas la maison, non. La maison, il faudrait qu'il y ait une crue au moins comme 82, voire pire, parce qu'en 82, j'avais pas d'eau. On est habitués, alors, vous savez, on vit là depuis qu'on est gamin, donc... On a vu des crues, hein. C'est pas la première. Hein. De toute façon, vous pouvez rien faire. Hein. Vous pouvez pas l'arrêter. Hein. Donc, faut subir. Et quand les gens achètent des maisons, là, surtout qu'ils n'hésitent pas à les relever. Quoi.
Vous disiez, monsieur, vous n'êtes pas inquiet non plus ?
Non, pas du tout. Ma femme est née à Saint-Jean. Moi, je suis des Pont-de-Cé. Alors, faut prendre son calme en patience. C'est ceux qui sont plutôt dans le village qui s'alarment beaucoup. Les nouveaux. Je voulais refaire voir en photo ma maison. Là, ça rentre dans ma cave. C'est l'eau qui rentre chez nous, là.
Ah, vous avez une petite barque, là ?
Oui, bah obligé, parce que là, il y a de l'eau, là. Là, j'ai au moins un mètre d'eau. Oui, les moules et les berniques qui vont arriver, là.
Voilà, Denis et Patrice, rencontrés hier par Faustine Calmel. Ils sont très détendus, les habitants, ici, vis-à-vis des crues. Jean-Paul Pavillon, ce sont des propos qui peuvent surprendre quand on regarde la situation de l'extérieur.
Ce qu'on a évoqué, on a le moyen ici d'anticiper. C'est-à-dire qu'on voit les crues venir. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine sérénité. et puis on connaît les niveaux d'eau. Là où ça commence à se compliquer, c'est sur des niveaux qui sont maintenant inconnus. C'est-à-dire que, enfin, inconnus de la population, parce que ça fait 32 ans qu'on n'a pas eu ce niveau-là. Donc, bien entendu, quasiment plus de 50% de la population est nouvelle. Donc, ne connaît pas l'eau qui est arrivée à ce niveau-là. Et donc, c'est maintenant, dans la durée, où ça commence à avoir un certain sentiment de dire que ça dure depuis longtemps. Et donc, cette sérénité-là, on espère pouvoir la garder assez longtemps, parce que nous, on fait la plupart des choses autour du plan communal de sauvegarde. Et on espère que les habitants vont continuer à avoir cette sérénité, malgré les décisions qui ne sont pas simples à prendre. Fermer une route, faire en sorte que les gens ne passent plus, mais c'est pour justement le bien commun, et donc on espère que cette sérénité va continuer dans la durée, ce qui est pas gagné, parce que je vous dis, les gens attendent avec impatience cette décrue qui n'arrive pas.
Qu'est-ce qui se passe pour des habitants comme ceux qu'on vient d'entendre qui refusent d'évacuer? Ils sont plusieurs centaines.
Eh bien, ils refusent d'évacuer, ils peuvent rester chez eux, mais bien entendu, lorsqu'après ils nous le demandent, et ce qui est le cas éventuellement ce matin, de dire ben, « venez nous chercher les évacués, on le fera », mais ramenez-nous de le ravitaillement, ce n'est pas le rôle aujourd'hui des communes, ni des services, d'aller ravitailler des personnes. Donc ce qu'on fait, nous, c'est plutôt évacuer pour les mettre en sécurité. Donc ils prennent leur disposition pour pouvoir rester chez eux, et après la mise en sécurité, eh bien c'est l'évacuation, parce qu'on ne peut pas aller ramener à manger, parce que, comme on l'a évoqué, on parle beaucoup du niveau d'eau, mais ce qui est impressionnant, c'est surtout le débit. Et là, les routes, on ne peut pas y aller. Tout à l'heure, on nous a demandé d'aller avec un tracteur. Ben, on ne connaît pas l'état de la route et on ne va pas aller avec un tracteur amener à manger ou amener des parpaings. Parce qu'aujourd'hui, le débit de l'eau, on ne connaît pas. Et l'état des différentes routes en dessous de l'eau, on ne les connaît pas non plus.
Est-ce qu'il y a une différence entre les historiques et les nouveaux habitants? On a beaucoup entendu ça ces derniers jours.
Bien entendu, ouais. Il y a une différence entre les historiques et les nouveaux habitants. Même si, pour les historiques, et c'est aussi une des spécificités de la Loire, elles ne montent pas pareil à chaque crue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle monte différemment que ce qu'on a pu connaître. C'est-à-dire que certains avaient des repères, mais là, aujourd'hui, les repères qui étaient ceux d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc, on doit apprendre à avoir des nouveaux repères. Après, c'est de se dire qu'effectivement, on a le temps de voir. Et c'est pour ça qu'on surveille ce que j'évoquais tout à l'heure, la Vienne. Parce que quand on surveille la Vienne, on sait qu'un jour et demi après...
La Vienne, elle est en amont.
Elle est en amont.
D'ici,
elle est
donc, les eaux de la Vienne se jettent dans la Loire.
Elle se jette dans la Loire et c'est elle qui amène beaucoup d'eau. Et donc, ça permet justement d'anticiper, de se dire, bah, ça va monter, donc anticipons. Donc c'est le maître mot, c'est l'anticipation, et beaucoup de gens jouent ce rôle d'anticipation sans aucun souci.
La particularité de ce fleuve que vous connaissez bien, Étienne Davodeau, c'est que là, évidemment, il déborde, le débit est très impressionnant, mais l'été, il peut y avoir un filet d'eau. C'est vraiment un fleuve qui peut avoir un visage très différent d'une saison à l'autre.
On dit que c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe, ce qui est un peu exagéré parce qu'il a un peu canalisé, mais ici, effectivement, il change radicalement de visage. L'été, on peut le traverser à pied, certains bras.
On traverse à pied?
Certains bras, pas partout. Alors évidemment, c'est pas conseillé.
Avec prudence, bien sûr.
Avec prudence, ouais. Mais en tout cas...
Il peut y avoir des sables mouvants.
On peut arpenter. Je vois Monsieur le maire qui me fait des gros yeux parce qu'il faut pas qu'on...
Il faut pas dire, mais moi, ce qu'on m'a dit hier, pied, c'est qu'on pouvait aller sur l'île... C'est quoi, c'est l'île des
chevaux?
L'île aux chevaux, on peut y aller à pied.
Alors que là, c'est strictement, évidemment, impossible. Mais c'est vrai que là, la vie du fleuve, elle rythme vraiment la vie des gens. Moi, j'ai pris ce matin des nouvelles d'amis qui vivent sur l'île de Béhar, qui est entièrement coupée du monde depuis plusieurs jours. Et ils me disent qu'eux, ils sont pas mal dans leur île coupée du monde. Ils ont le bateau, ils rendent service. Les gens qui vont travailler à l'extérieur, on leur fait faire des navettes avec les bateaux. Et c'est une autre façon de vivre, un autre mode de vie qui tient compte des spécificités de ce fleuve très capricieux. Très impressionnant, mais très beau.
Alors, très beau, très vivant. On va retourner à... Alors, c'est pas Montjean-sur-Loire, c'est Montjean. C'est ça, Étienne Davodeau.
Absolument, il faut prononcer.
Montjean-sur-Loire avec les équipes de Vigicru qui aujourd'hui effectuent donc cette opération historique pour mesurer le débit de la Loire, opération jamais réalisée dans ces conditions depuis 1994, à l'aide d'un bateau sur le fleuve. On retrouve Stéphane Marlette de la DREAC qui supervise l'opération.
Alors là, l'équipe, ils sont en train de procéder au jaugeage, donc ils font des allers-retours perpendiculairement à la Loire. En fait, hein, l'idée, c'est d'en faire plusieurs et ils mesurent la vitesse en instantané, en continu. Eh bien, ça va donner un débit instantané. Ce débit instantané, on va le confronter au débit qu'on estime sur la station hydrométrique et on va pouvoir corriger le cas échéant les prévisions qu'on publie sur Vigicru.
Là, c'est du réel.
Oui, là, c'est du réel. Et en fait, le caractère exceptionnel de cette mesure, c'est que ce réel, on ne l'a pas eu depuis 30 ans. Et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il arrivera. Donc nous, toute notre organisation, c'est de pouvoir être prêt en fait pendant les crues pour aller jauger au maximum de toutes les crues. Donc hier, ils étaient à Saumur. Aujourd'hui, ils sont à Montjean. Et ce week-end, ils vont retourner sur les petits cours d'eau de la région où il y a des nouvelles réactions hydrologiques.
De quels outils est-ce qu'ils disposent à bord?
Alors à bord, ils disposent avant tout d'un ce qu'on appelle un... un ADCP, alors il faut le voir comme un radar routier, ça prend la vitesse des particules dans l'eau, mais globalement c'est la même technologie et ça nous permet d'avoir toutes les vitesses sur toute la colonne d'eau.
Donc là on va flasher la Loire.
Exactement, on va flasher la Loire. Et ils ont aussi un tracker GPS qui leur permet d'avoir le fond de la rivière et de mettre en œuvre une bathymétrie en temps réel.
La navigation est dangereuse, périlleuse, on voit là sous nos yeux le débit qui est extrêmement fort, ça veut dire qu'il faut prendre des précautions.
Oui, alors effectivement, c'est un jaugeage qui est, on va dire, inhabituel par rapport à ce qu'on met en œuvre d'habitude. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là aussi aujourd'hui, c'est pour faire l'observateur, pour être sûr que le jaugeage se fait en sécurité et le cas échéant prévenir les secours. Alors après, ils sont formés, hein, on a des formations spécifiques pour ce type de jaugeage, mais effectivement... C'est quand même des conditions qui nécessitent une vigilance très particulière aujourd'hui. On est beaucoup plus soumis, on a des gros embâcles qui passent là en ce moment.
C'est ces obstacles, ces débris.
Charriés par la crue, ouais. Parfois sur la Loire, sur des centaines de kilomètres. Et puis, ils ont deux moteurs, puisqu'effectivement, si jamais ils tombent en panne, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir revenir à la rive avec le moteur de secours.
Voilà, et tout s'est bien passé ce matin à Mont-de-Jean-sur-Loire. Je vous livre les résultats en exclusivité. 5070 mètres cubes secondes ce matin. C'est 1000 mètres cubes secondes en temps normal. Donc 5 fois plus aujourd'hui qu'en temps normal. Et c'est 100 mètres cubes secondes en période de sécheresse. Jean-Paul Pavillon, que vous inspirent ces chiffres du débit de la Loire en ce moment?
Ce qui m'inspire, c'est un peu ce qu'évoquait Étienne Davedot, c'est qu'effectivement, c'est un fleuve qui bouge et qui évolue. Et vous voyez, entre 100 mètres cubes qu'on a connu en période de sécheresse et les 5000 maintenant.
Ah oui.
Et ce qui m'inspire aussi, surtout, le côté sécurité que j'évoquais tout à l'heure. 5000 mètres cubes, c'est pas neutre. Hein. Et donc, c'est au niveau du milieu des fleuves, mais même dans certaines rues à côté, il y a du courant. Et donc, faisons attention, effectivement, à ce débit. Et donc, c'est là qu'il faut anticiper sur le débit, parce que voilà, ça bouge. Et on le voit d'ailleurs ici, hein, quand on voit cette force qui arrive. Donc, c'est impressionnant. C'est majestueux, mais d'un autre côté, il faut aussi s'en méfier.
On voit ces tourbillons, effectivement, dans l'eau. Cyril Florent, vous qui êtes géographe, membre du GIEC également, on a besoin de vous pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce phénomène-là, ce long phénomène, plus de 30 jours de pluie ininterrompue sur une large moitié ouest du pays, est-ce qu'il est dû au changement climatique? Mais on a déjà connu des crues et de très nombreuses ici dans cette région. Bien, il est aggravé, accéléré par le changement climatique.
Alors évidemment, c'est une question qui est cruciale. Les phénomènes sont, on le voit, accentués depuis plusieurs années. Y a la science de l'attribution, c'est une science relativement nouvelle qui met en évidence justement le lien, le rapport entre les causalités du changement climatique et des événements extrêmes. Et il est bien montré que depuis plusieurs années, plusieurs événements ne se seraient pas produits si le dérèglement climatique n'était pas en route depuis maintenant la moitié du 19e siècle. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est important.
Ça veut dire qu'il y aurait eu cette crue, mais peut-être pas dans ces proportions-là.
Peut-être pas avec cette intensité, peut-être pas avec une telle récurrence. Il y a la récurrence, il y a à la fois l'intensité de la crue et la récurrence, puisqu'on l'a dit, la dernière crue d'un peu cette importance-là était en 1995, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement.
Oui.
Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'une crue de la même intensité arrive bien plus tard, et en fait, elle est assez récente, maintenant. Donc en fait, c'est effectivement le cas, c'est une preuve supplémentaire que le dérèglement climatique et les changements climatiques sont à l'œuvre aujourd'hui.
Vous pouvez nous expliquer le mécanisme? Qu'est-ce qui fait que peut-être il y a plus de précipitations l'hiver quand la moyenne des températures augmente sur la planète?
Alors en fait, c'est lié au dérèglement du cycle de l'eau. Très, très rapidement, le cycle de l'eau, en fait, c'est l'évaporation due à la chaleur qui après est restituée sous forme de pluie. Cette pluie, elle est restituée sur les continents, sur les terres, soit en ruissellement, ce qu'on voit aujourd'hui, soit en infiltration et en percolation pour alimenter les nappes souterraines. Et en fait, plus il fait chaud, plus on évapore d'eau et plus il y a d'eau, vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et donc cette vapeur d'eau, elle est restituée après sous forme de pluie. C'est ce qu'on voit littéralement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toute la façade atlantique est vraiment assaillie par des perturbations à répétition, ce qui est un phénomène tout à fait exceptionnel. Et c'est ce qui provoque ces pluies importantes qui, aujourd'hui, nous mènent à ce débit important sur la Loire.
Ça veut dire qu'on va vers des hivers de plus en plus pluvieux?
C'est ce qui est avancé, en tout cas, dans le rapport qu'on a publié dans le GIEC Pays de la Loire, donc en janvier donc de 2026. On montre bien que les pluies sont vraiment accentuées. En fait, la quantité de pluie sur l'année va rester à peu près la même, mais la répartition de ces pluies dans l'année va changer. Beaucoup plus de pluies sur un temps court, donc sur les périodes d'hiver, et inversement en été.
J'ai fait référence tout à l'heure dans le pont qui est juste à côté de nous, il y a des relevés des crues, il y en avait beaucoup au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On garde souvenir de ces épisodes-là. La différence peut-être, c'est qu'à l'époque, Cyril Fleurant, évidemment, les activités humaines prenaient moins de place. Et il y avait moins d'urbanisation, il y avait moins de logements, il y avait moins d'habitats.
Donc c'est évident que les activités anthropiques, les activités des sociétés ont un impact fondamental et très important sur évidemment ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire les débits et les ruissellements en particulier. Quand évidemment on aménage des routes, quand on met des parkings, quand on a des toitures de plus en plus importantes, donc une urbanisation de plus en plus importante, ça facilite le ruissellement, ça ne facilite donc pas l'infiltration et c'est un problème.
Jean-Paul Pavillon, on peut construire partout sur la commune des Ponts-de-Cé ou pas ?
Non, on ne peut pas construire partout. 78% du territoire est inondé. On a des documents d'urbanisme, notamment des PPRI, donc points de prévention des risques d'inondation, qui nous empêchent de construire. Donc
80% de votre commune en zone inondable, oui. Est-ce qu'on peut quand même construire dans des zones inondables ?
Alors on ne peut plus construire,
on peut plus construire dans les zones inondables.
On peut étendre éventuellement, il y a des règles d'urbanisme qui sont là, mais nous, le développement de la ville se fait vraiment dans le nord. Hein. Mais pour revenir sur
nord de la Loire,
nord de la commune.
Hein, oui.
Nord de la commune. Mais pour revenir sur les éléments climatiques, c'est vrai qu'avant, les crues venaient avec les fontes des neiges. C'est plus maintenant ça. C'est-à-dire que quand on regarde...
Ah non, la neige n'est pas en train de fondre, je vous confirme.
Non, mais quand on regarde Orléans-Blois, il n'y a pas de souci avec la Loire. Et donc on voit bien que c'est le phénomène de pluie tel qu'il a été évoqué qui tombe sur la Vienne et qui ramène ici beaucoup d'eau. Et c'est vrai qu'avant, on connaissait plutôt des crues qui venaient, fondre des neiges,
augmentation. Fondre des neiges dans le Massif Central.
Massif Central,
et puis après ça... D'accord. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la pluie.
Et là, aujourd'hui, Orléans, ils ont de l'eau, mais ils ne sont pas en crise.
Je parlais de cette longue histoire qui est tracée, vraiment gravée sur les ponts le long de la Loire. Les digues aussi sont un témoin de cette longue histoire. Des digues qui ont plusieurs centaines d'années d'existence, qui sont mises à rude épreuve en ce moment et qui sont sous haute surveillance, notamment celle des équipes de Virginie Gaspari, qui est responsable de la plateforme d'Angers pour le service digue de l'établissement public Loire. 170 km de digues sous sa surveillance sur 3 départements. Nous l'avons retrouvée hier sur celle de Bellepoule, ici au Ponts-de-Cé.
Alors là, on est sur le tronçon dit de Bellepoule, qui est l'aval du système d'endiguement qui protège le Val d'Authion, et qui est une digue qui protège plus de 60 000 personnes, qui commence en Indre-et-Loire, du côté de Langers, et qui finit en Maine-et-Loire, sur la commune des Ponts-de-Cé.
Combien de kilomètres de long ?
80 km en tout, et cette portion-là sur laquelle on se situe, qui fait 6 km de long. Donc une digue, c'est un élément qui est constitué principalement de matériaux terreux, sableux, alors il peut y avoir un peu d'argile. Donc on a bien des forces qui s'exercent avec du côté Loire l'eau qui monte et qui met ce corps de digue en pression, en charge. Et puis de l'autre côté, le rôle de la digue, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau. Mais vraiment le rôle, c'est que dans la zone protégée, on soit, comme on dit, à pied sec, donc sans eau qui vient de la Loire.
Il y a quand même de l'eau de l'autre côté, hein, sur les parties qui normalement sont sans eau, qui sont protégées par cette digue. Les champs, ils sont inondés, ça c'est de l'eau qui vient de la Loire ?
Alors c'est de l'eau qui va remonter par capillarité vraiment sur les nappes phréatiques et puis qui remonte du sol. Et puis il ne faut pas oublier que ça fait quand même là plusieurs semaines qu'on fait face à des intempéries. Donc les sols sont aussi gorgés d'eau et ils n'arrivent plus non plus à absorber en fait ce qui continue de tomber. Donc on a été appelé à plusieurs reprises maintenant depuis le début de semaine pour nous signifier qu'il y avait des zones de fuite.
L'eau elle s'infiltre à l'intérieur des digues et elle emporte, elle les creuse de l'intérieur en fait, c'est ça le risque.
Effectivement, le risque c'est ça, c'est une érosion interne de l'ouvrage. Et si ça arrive, ça peut s'agrandir et assez vite faire des trous dans la digue et conduire à la brèche de l'ouvrage. Donc ça, là, il faut intervenir avant. D'autant plus qu'on est sur des ouvrages anciens et sur lesquels on a de la végétation avec des racines qui vont profondément dans le sol et qui pourraient permettre ce passage d'eau préférentiellement le long des racines. On va voir que l'endroit qui fuit va être de plus en plus important. Et puis surtout avec un débit de plus en plus important, avec des matériaux aussi qui vont vraiment se voir. Là, c'est vraiment le signe qu'il faut se préparer à l'évacuation.
Les scientifiques nous disent que les hivers vont être de plus en plus pluvieux, de plus en plus humides. Est-ce que vous travaillez, vous, sur des modèles qui verraient l'eau monter davantage et la Loire atteindre des niveaux supérieurs à ce qu'on a pu connaître en moyenne ces dernières années, les prochains hivers ?
Ce qui va vraiment nous perturber sur le réchauffement climatique, ça va être ces alternances en fait de périodes très pluvieuses et les périodes de sécheresse, parce que les digues, elles peuvent aussi, comme les habitations qui ont soumis au risque retrait gonflement d'argile, la digue, c'est pareil, les matériaux, ils vont travailler aussi en période de sécheresse.
C'est un état de stress particulier pour vous, des semaines comme celle-ci ?
Oui. On a eu la chance de faire un exercice gestion de crise qui était organisé par la préfecture au mois de novembre l'année dernière, donc c'est assez récent. C'est toute la différence entre l'exercice qui va durer une journée ou deux et la réalité. Et là, on ne voit pas la décrue s'amorcer, on voit un plateau haut, on voit les niveaux à l'amont de la Loire qui continuent de monter. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Les vacances ne sont pas pour tout de suite ?
Non, elles ont été annulées.
Ah, elles ont été annulées carrément.
Oui.
Bon.
Vacances annulées, donc, dans ce service de vigilance des crues. Jean-Paul Pavillon, c'est peut-être aussi le cas de certains membres de votre municipalité, vous qui êtes le maire ici des Ponts-de-Cé. Vous êtes aussi vice-président de l'agglomération d'Angers. Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de l'agglomération pour tenir compte de ce qu'on a sous les yeux et se dire, bah, il y a peut-être des zones où il faut retirer des activités, avoir des activités différentes, aménager le territoire de manière différente avec ces crues, et Cyril Fleurant nous l'a dit il y a quelques minutes, qui vont se succéder dans les prochaines années, peut-être à un rythme plus rapide.
Alors oui, il y a une réflexion, c'est ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme qui est intercommunal, donc il y a une réflexion un peu plus globale. Et l'autre chose aussi, c'est la désimperméabilisation des sols. Parce que ce qu'il fait aussi aujourd'hui, ça a été un peu évoqué, c'est comment maintenant on infiltre de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau, effectivement, on a tout fait dans les aménagements pour faire en sorte qu'elle parte le plus rapidement possible, alors que maintenant, il faut qu'on fasse que l'eau puisse rester. Alors, dire ça aujourd'hui, alors qu'il y a plein d'eau, mais ça veut dire qu'il y a des possibilités de stockage dans le sol. Et donc, il va falloir désimperméabiliser les sols de façon à ce que l'eau n'arrive pas vite vers les ruisseaux, vers les rivières, et qui fait que ça monte en charge beaucoup plus rapidement.
Concrètement, comment ça se traduit, cette désimperméabilisation des sols ?
Par exemple, si on fait à l'échelle de notre commune, on a désimperméabilisé toutes nos cours d'école. Là où on avait quelques mètres carrés. Donc c'est ça qu'on a commencé à faire. Des parkings qu'on
a. Donc on enlève le bitume, on met autre chose à la place.
On met des choses qui sont absorbantes. Donc c'est ça aussi.
Mais ça veut dire qu'on dit à M. Leclerc, à M. Carrefour, à M. Auchan, vous détruisez votre parking là, tel qu'il existe ?
On les accompagne. Moi, je n'ai pas de relation directe avec M. Auchan ni M. Leclerc. Mais on accompagne et nous, on est.
Après, on accompagne, on contraint.
On peut contraindre effectivement le taux d'imperméabilisation des sols. Donc c'est des choses qui peuvent rentrer et c'est dans des documents d'urbanisme qu'on va travailler sur ce sujet-là.
Ça s'est déjà fait sur l'agglomération d'Angers de contraindre quelqu'un à aménager différemment ?
C'est les collectivités qui le font. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais dans les prochaines règles d'urbanisme, on va regarder ce sujet-là. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on doit faire. Et puis, l'autre chose sur laquelle on travaille, ben, je vous l'avais dit, on a la compétence des digues, mais dans les digues, on doit aussi travailler sur les zones d'expansion de crues. Donc, il y a des choses, on doit protéger avec des digues, mais trouver aussi des endroits où l'eau peut éventuellement déborder et puis s'infiltrer. Donc, il y a tout ça qui doit être travaillé à l'échelle d'un territoire. Et la difficulté avec l'eau, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à l'échelle de l'agglomération. C'est pour ça qu'il faut avoir une vue globale. Et là, on était avec un agent de l'établissement public Loire. Il y a une vision à avoir sur tout le niveau de la Loire.
Elle chapeaute 3 départements, donc 170 km de digues. C'est dire s'il y a des centaines de milliers, des millions d'habitants de concernés. On a croisé beaucoup de riverains et autres au bord de ce fleuve depuis quelques jours qui sont fascinés, qui sont attirés. Ce matin, il y avait un jeune homme à Mont-Jean-sur-Loire avec ses jumelles, avec son appareil photo pour voir les oiseaux parce qu'il est naturaliste. Étienne Davodeau, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce spectacle-là, dans ce paysage-là, vous qui êtes riverain de ce fleuve Loire, qui était le titre de votre album en 2023? Qu'est-ce qui vous plaît en ce moment ?
Ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est que ça parle aussi de notre façon de vivre avec un fleuve. Comme Jean-Paul Pavillon vient de le dire, on a longtemps contraint le fleuve, on a longtemps essayé de le dominer, de le domestiquer. Et maintenant, on se rend compte qu'on est obligé de faire avec, on est obligé de composer avec. Et je trouve que ce changement de regard-là est vraiment intéressant. C'est aussi une question de temps qui passe, c'est une question générationnelle. Les travaux du GIEC, évidemment, sont déterminants dans ce domaine-là. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment les gens changent leur rapport au fleuve. Et effectivement, quand il y a une crue, y compris l'été, quand il y a des orages, il y a beaucoup de gens qui viennent simplement profiter du spectacle, parce que la Loire, c'est aussi un spectacle, et c'est un spectacle très changeant comme on l'a vu, et c'est ce rapport-là avec cet élément qu'on a sous les yeux en permanence, on le traverse tous les jours, on le longe, parfois on n'y fait pas gaffe, et puis un jour il y a une lumière magnifique qui nous accroche l'œil et on s'arrête. Et c'est cette façon qu'elle a de faire partie de nos vies qui me semble à moi un truc déterminant. Ça semble pas très important, mais moi je crois que ça nous nourrit, vraiment.
Vous avez eu ces moments, ces derniers jours, vous dites une lumière qui vous frappe l'œil, une scène qui vous arrête, la beauté qui vous saisit. Vous avez vécu ça ces derniers jours ?
Là, je ne vous cache pas qu'en ce moment, j'arpente beaucoup les bords du fleuve, autant que je peux, parce que les routes ferment,
bien sûr.
Mais ouais, je l'arpente beaucoup parce que c'est... c'est à la fois quelque chose qui nous est familier et quelque chose, dans cette amplitude-là, qui nous est nouveau. C'est très contradictoire, mais voilà, on se demande jusqu'où ça va aller. C'est un peu inquiétant, parce que ça pose des vrais problèmes techniques, logistiques, pratiques. Mais en même temps, cette puissance phénoménale, je ne vois pas qui peut y être indifférent. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et donc oui, j'y passe beaucoup de temps, je la repente avec plaisir.
Une autre façon de voir la Loire, je recommande votre album 2023, Loire, pour tous ceux qui ne sont pas familiers de ce fleuve. Il y a de très belles lignes aussi, écrites par Julien Gracq dans ses romans, auteur de la Loire évidemment et qui habitait à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Je vous les recommande chaudement. Si vous voulez avoir une expérience de ce fleuve et puis venez vous promener, évidemment en toute sécurité et peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, quand les niveaux d'eau seront un peu plus bas. Jean-Paul Pavillon, on peut dire ça?
Oui, exactement. Voilà. Oui. Il y a d'autres atouts l'été sur le bord de Loire. Oui.
Notamment la Loire à vélo, mais là c'est compliqué en ce moment. Les pistes sont totalement recouvertes. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui en direct des ponts de C. Merci aux équipes de Rive d'Art. Vous pourrez visiter ici les expositions dans quelques jours quand le centre va rouvrir. Merci à Nicolas Boucard, à Geoffrey Marianne et Eric Audra pour la technique ici aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, à Cécilia Arbonnat et Camille Poux-Jalaguet pour la préparation, à Faustine Calmel pour les reportages.